Mais je voudrais vous poser une question pour commencer. Sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre relation à Dieu? 0 étant, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. 10 étant, j'ai le désir irrépressible d'invoquer Dieu dans la prière dès que j'ouvre les yeux le matin et chaque soir avant de me coucher. Alors, sur une échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous votre relation à Dieu? Je dois avouer que personnellement, je ne me donne pas une note très brillante. Comment se fait-il que nous ne soyons pas si enclins que ça à nous approcher de Dieu, à l'invoquer, à le chercher dans la prière? Certains d'entre vous, hein, c'est possible, ne croyaient peut-être pas en Dieu, tout simplement, donc la réponse est simple. Mais d'autres parmi vous, il est possible que vous croyez en Dieu, mais en même temps, vous ne savez pas qui il est ni comment il est. Donc vous ne savez pas, si vous vous approchez de lui, vous ne savez pas ce qu'il va vous faire. Donc vous n'êtes peut-être pas très enclin à vous approcher de lui. D'autres encore parmi vous, vous croyez en Dieu, vous avez une assez bonne idée de comment il est, grâce à la Bible, grâce à votre expérience chrétienne, mais vous n'êtes quand même pas très enclin à épancher votre cœur auprès de lui, à lui exprimer vos doutes, vos peurs, vos peines, à lui confesser vos fautes, vos luttes et à solliciter son secours. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne soit pas plus enclin que ça à nous approcher de Dieu, à l'invoquer, à le chercher? Ben, quelle que soit notre relation à Dieu, hein, que nous le connaissions très bien ou pas du tout, je crois que la raison pour laquelle un certain nombre d'entre nous, en tout cas, ne sommes pas enclins à nous précipiter vers lui pour solliciter son secours, à mon avis, la raison, c'est fondamentalement parce que, au fond, nous ne sommes pas sûrs que Dieu, s'il existe, nous y invite. Nous ne sommes pas sûrs qu'il nous invite réellement à nous approcher de lui. Nous ne sommes pas sûrs de ses intentions à notre égard. Est-ce qu'on a vraiment le droit de s'approcher de Dieu comme ça, n'importe quand, pour épancher notre cœur auprès de lui? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et si on le fait, est-ce qu'il va nous recevoir favorablement? Est-ce qu'il va nous écouter? Est-ce qu'il va faire quelque chose pour nous? Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu fait des promesses qui sont bonnes pour les hommes, qui sont favorables aux hommes, qui sont bénéfiques aux hommes. Et ces promesses sont si fiables que si nous les croyons vraiment, elles devraient nous pousser, nous presser en tout temps à courir vers Dieu pour nous réfugier auprès de lui. Et la leçon de ce texte, on pourrait la résumer de la façon suivante. Le texte qu'on va lire dans quelques instants. Ose t'approcher de Dieu, car il est assurément disposé à te secourir. Ose t'approcher de Dieu, car il est assurément disposé à te secourir. Souvenez-vous de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le livre de Ruth. D'abord, au premier chapitre, l'auteur nous a fait contempler l'amertume de Noémie. Noémie, c'est une femme croyante, mais qui, en raison des épreuves qu'elle a traversées, doutait, au fond, de la compétence de Dieu dans sa vie. Elle doutait de sa compétence. Au deuxième chapitre, l'auteur nous a fait contempler, cette fois, la faveur de Boaz, un homme, croyant lui aussi, un Israélite, qui va relayer, quelque part, auprès de Noémie et de sa belle-fille qui s'appelle Ruth, relayer auprès d'elle la bienveillance efficace de l'Éternel. Ce qui a pour effet, on l'a vu la dernière fois, de réveiller Noémie de son amertume lorsqu'elle se rend compte que Dieu finalement ne l'a pas abandonnée. Et maintenant, troisième chapitre, l'auteur va nous faire contempler, après nous avoir donc fait contempler l'amertume de Noémie, deuxièmement, la faveur de Boaz, cette fois, troisièmement, il va nous faire contempler la loyauté de Ruth. La loyauté de Ruth. Cette jeune femme, rappelez-vous, d'origine païenne, elle n'est pas du tout israélite d'origine païenne, qui se convertit à Dieu, au Dieu d'Israël, et qui, comme on a déjà pu le voir, qui est un exemple de foi. Elle est d'origine païenne, mais malgré tout, elle est un exemple de foi auprès des Israélites. Et c'est à travers le comportement de cette jeune femme que Dieu, cet après-midi, veut nous inciter à notre tour à nous approcher hardiment de lui, à nous approcher courageusement de lui. D'accord? Donc on va lire le texte maintenant. J'invite Gilles, c'est bien ton prénom, à venir devant faire la lecture. Merci beaucoup.
Bien, nous allons lire Ruth chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers moi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. »
Merci, je vous invite à prier avant de continuer. Seigneur, merci infiniment pour ta parole, elle est la vérité. Et s'il te plaît maintenant, sanctifie-nous par le moyen de ta parole, par la puissance de ton esprit, et au nom de Jésus. Amen. Ose t'approcher de Dieu, car il est assurément disposé à te secourir. D'accord ? C'est ce que j'aimerais qu'on retienne à l'issue de ce message. D'abord, dans ce passage, l'auteur veut nous faire comprendre, versets 1 à 4, qu'on peut invoquer les promesses de Dieu avec beaucoup d'audace. Qu'on peut invoquer les promesses de Dieu avec beaucoup d'audace. Alors, à la fin du chapitre 2, chapitre précédent, je le disais tout à l'heure, Noémie s'est rendu compte que par sa providence, Dieu avait fait en sorte que Ruth, sa belle-fille, donc rencontre un homme du nom de Boaz, qui, il se trouve, par la providence de Dieu, est un membre de la famille de Noémie, un membre de la famille qui avait ce fameux devoir de rachat envers elle. Et rappelez-vous, bien sûr, que Noémie et Ruth ont toutes les deux perdu leur mari et n'ont pas de fils vivant qui puisse faire perdurer, qui puisse pérenniser la lignée. Mais Dieu avait prévu dans sa loi, dans la loi de l'Ancien Testament, que lorsque cette situation se présentait parmi les membres de son peuple, eh bien un proche parent devait épouser la veuve pour assurer au défunt, à l'homme mort, une descendance. Et ainsi, en se rendant compte de ce que Dieu avait fait par sa providence dans la vie de Noémie, en faisant en sorte que Ruth rencontre Boaz, voilà, et ben Noémie a pu constater que le Dieu d'Israël était un Dieu dont la bienveillance était si efficace qu'il n'abandonne même pas les morts. Vous vous rappelez, on avait vu ce point la dernière fois. mais il les rachète de la mort. Cette disposition de la loi, le devoir de rachat, quelque part, sert à racheter la personne qui était morte sans descendance pour pouvoir assurer la pérennité de son patrimoine et de son héritage. Bref, Noémie se rend compte à la fin du chapitre 2 que Dieu a été bon et qu'il avait agi dans sa providence pour faire en sorte que son chemin, enfin le chemin de Ruth plus précisément, croise celui de Boaz. Et elle se réjouit à la fin du chapitre 2 en se rendant compte de cela. Mais maintenant, au début du chapitre 3, elle va donner des instructions à Ruth. Et le but de ces instructions, c'est de faire en sorte que ce devoir de rachat soit exercé. Seulement, ce qui doit nous frapper ici, c'est la nature de ces instructions. Ce que Noémie dit à Ruth de faire, c'est incroyablement audacieux. C'est incroyablement audacieux. Ruth, écoute, tu vas te mettre sur ton 31 ce soir, tu vas mettre tes beaux vêtements, un peu de parfum, tu vas surveiller Boaz discrètement pendant qu'il travaille, puis tu verras après le repas où est-ce qu'il va aller se coucher. D'accord? Et puis, une fois qu'il se sera endormi, Ruth, tu vas le rejoindre dans son lit. C'est audacieux, non? Enfin, c'est choquant. Seulement, écoute, Ruth, pour éviter que Boaz se trompe sur tes intentions, tu vas te coucher, mais à ses pieds. À ses pieds. Comme ça, il ne va pas s'imaginer des choses. D'accord? Mais quand même. Quelle audace, non? L'intention de Noémie, c'est que Ruth sollicite, provoque une occasion où elle pourra solliciter le devoir de rachat qui incombe à Boaz. C'est ce qu'on découvre dans la suite du récit. Mais c'est tellement audacieux, c'est presque choquant même pour nous qui vivons au 21e siècle, hein, où de nos jours on dort un peu avec n'importe qui. Hein. Ça se fait pas quand même d'aller se coucher avec un homme de cette stature. C'est osé, c'est même déplacé. C'est un peu comme si vous travaillez en tant que simple ouvrier pour une très grande entreprise. Imaginez que ce soit votre cas. Vous travaillez en simple ouvrier, comme simple ouvrier dans une très grande entreprise. Mais un jour, vous vous dites que vous méritez quand même une augmentation. Alors, d'un pas très ferme, vous vous rendez au bureau du PDG, au dernier étage de l'immeuble de l'entreprise. Vous tapez avec assurance à la porte et vous dites au PDG « Bonjour monsieur, je suis là pour une augmentation de 300 euros ». Ça se fait pas, d'accord? C'est un peu audacieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déplacé, ça se fait pas, tout simplement. Ça se fait pas à moins que dans la semaine qui a précédé, vous ayez reçu une lettre de votre PDG à votre nom vous informant de sa décision de vous accorder une augmentation de 300 euros. Dans ce cas, l'audace, elle s'explique, d'accord? C'est beaucoup plus plausible. Votre assurance s'explique par les intentions favorables du PDG qui vous ont déjà été notifiées à travers une promesse écrite, d'accord? Et qu'est-ce qui explique le caractère audacieux des instructions que Noémie donne à Ruth? Mais c'est le fait que les intentions favorables de Dieu lui ont été notifiées à travers ses promesses contenues dans sa loi. En l'occurrence, il s'agit de cette disposition de la loi qui constituait une espèce d'assurance d'essai, on en avait parlé la dernière fois, une assurance d'essai pour les morts et pour leurs veuves. Donc l'audace de Noémie, c'est pas de la témérité, c'est pas de la prétention, vas-y Ruth, t'inquiète pas, on va foncer dans le tas, on va l'obtenir ce devoir de rachat. Non, c'est pas de la témérité. Elle est audacieuse, Noémie, dans ses instructions parce qu'elle a conscience de ce que Dieu lui a promis dans sa loi. Et elle l'a constaté à la fin du chapitre 2. Ah! Dans sa providence, Dieu a fait en sorte qu'on rencontre Boaz, un membre de notre famille. Mais c'est vrai, il a un devoir de rachat envers nous. Ce qu'elle est en train de faire, Noémie, ici, à travers Ruth, c'est exactement ce que vous feriez, vous, pour faire valoir une prestation prévue par un contrat d'assurance, tout simplement. C'est prévu dans le contrat. Vous y allez. Et donc vous voyez que l'auteur, dans un premier temps, veut nous montrer qu'on peut invoquer les promesses de Dieu avec beaucoup d'audace. Mais est-ce que nous connaissons les promesses de Dieu, nous? Noémie, ce qui la pousse à une telle audace, c'est qu'elle connaissait les dispositions de la loi de Dieu. Mais est-ce que nous connaissons les promesses de Dieu? Et si nous les connaissons, est-ce que nous les croyons vraiment? Hein? Quand Jésus dit cette parole qu'on a lue tout à l'heure, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Est-ce que nous le croyons, ça? Et si nous le croyons, mais qu'est-ce qu'on attend pour se précipiter auprès de lui? Et lorsque le psalmiste dit « C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion. » Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour s'approcher de ce Dieu, pour épancher notre cœur auprès de lui, pour lui confesser nos fautes, pour solliciter sa délivrance? Qu'est-ce qu'on attend si on croit vraiment sa promesse? Vous voyez, on peut s'approcher de Dieu avec une certaine audace, sur la base de ses promesses, à condition bien sûr que nous les connaissions, comme Noémie qui avait conscience de ce que Dieu avait promis dans sa loi en ce qui concernait le devoir de rachat. Non seulement que nous les connaissions, ces promesses, mais que nous les croyions vraiment. Mais regardons la suite du texte, la suite de l'épisode. À partir du verset 5, je crois que l'auteur veut nous faire comprendre maintenant que Dieu agrée celui qui s'approche de lui en renonçant à soi-même. Dieu agrée celui qui s'approche de lui en renonçant à soi-même. Donc ce qui nous a frappé au verset 1 à 4, c'est d'abord le caractère audacieux, très audacieux, choquant, un peu déplacé, enfin de prime abord, des instructions de Noémie. Mais ce qui doit nous frapper maintenant, à partir du verset 5, c'est tout simplement le fait que Ruth accepte. Elle accepte sans sourciller apparemment de suivre les instructions de Noémie. Versets 5 et 6, elle lui répondit « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Verset 6, elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Oh. Donc elle aussi, elle est quand même assez audacieuse, elle a confiance, en tout cas, en sa belle-mère. Et ensuite, on découvre que Boaz va se réveiller pendant la nuit, il découvre la situation, un peu surpris. Il comprend la démarche de Ruth, une fois qu'il lui a demandé qu'est-ce qu'elle fait là, elle sollicite le devoir de rachat, hein, son devoir de rachat. Et à son tour, à ce moment-là, Boaz est frappé de la loyauté de Ruth. Moi, dans ma traduction, il est dit, verset 10, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première. » Qu'est-ce qui explique la surprise? Pourquoi est-ce que Boaz est tellement impressionné? Ben, il se rend compte que Ruth n'a pas cherché en premier lieu son bonheur personnel, hein, en allant solliciter un jeune homme peut-être plus séduisant, plus vigoureux que Boaz. C'est ce qu'il dit, hein, toujours verset 10. « Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Elle n'a pas cherché son bonheur personnel en premier lieu, mais elle s'est préoccupée en tout premier lieu des instructions de sa belle-mère et des dispositions de la loi de Dieu qui prévoyait le rachat, la rédemption, si vous voulez, d'hommes israélites qui mourraient sans descendance. C'est ça qui a préoccupé Ruth, plus que son bonheur ou ses intérêts personnels. Et la réaction de Boaz ici illustre ou reflète ou exprime l'approbation de Dieu lui-même sur sa démarche. Seulement, il faut préciser une chose ici. C'est que le renoncement de Ruth, qui renonce à ses intérêts propres, à son bonheur personnel, ce renoncement de Ruth ou ce désintéressement de Ruth ne représente pas, ne constitue pas dans ce texte un sacrifice méritoire, c'est-à-dire un sacrifice qui lui fait mériter la faveur de Boaz et de Dieu. Ce n'est pas un sacrifice méritoire, mais un sacrifice nécessaire. Autrement dit, ce n'est pas son renoncement à soi qui la rend digne de s'approcher de Dieu, mais c'est le fait de s'approcher de Dieu qui implique ce renoncement à soi. Ou pour le dire encore autrement, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans, par nécessité, s'éloigner de soi-même. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans, par nécessité, s'éloigner de soi-même. Mais ce renoncement n'est pas un renoncement méritoire, ce n'est pas un sacrifice méritoire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour mériter la faveur de Dieu. Mais c'est quelque chose qu'on fait nécessairement, parce que c'est ce qu'implique le fait de s'approcher de Dieu. Imaginez que vous soyez un paysan au Moyen-Âge et que vous serviez un seigneur bienveillant, d'accord? Et un jour, vous êtes dans les champs, en train de travailler, et vous voyez à l'horizon s'approcher une bande de pillards qui est en train de tout ravager sur son passage. Évidemment, vous vous inquiétez tout d'un coup pour votre vie, et pour vos biens. Et vous prenez la fuite en direction de votre petite chaumière qui se trouve à quelques kilomètres de là. Et dans cette chaumière, vous savez pertinemment qu'il se trouve les quelques richesses que vous avez pu à grand-peine accumuler au fil des ans. Et puis, voilà que sur le chemin de votre petite chaumière, alors que vous êtes en train de courir, vous êtes en train de prendre les jambes à votre cou, comme on dit, vous croisez le seigneur de la région en personne, votre seigneur bienveillant. Et il vous dit, suis-moi, viens te réfugier avec moi dans mon château. Seulement, votre petite chaumière, elle n'est pas sur le chemin du château. Alors là, vous avez un dilemme. Est-ce que je continue mon chemin en direction de ma chaumière, ou bien est-ce que je suis le Seigneur vers son château où il m'a invité, par grâce, à me réfugier? En acceptant la faveur et la protection du Seigneur, vous devrez par nécessité abandonner vos biens sans savoir ce qui leur arrivera. Vous voyez, ce renoncement n'est pas un sacrifice méritoire. Vous ne le faites pas pour gagner la faveur du Seigneur. Elle vous est déjà offerte, sa faveur. Mais ce renoncement est un renoncement nécessaire néanmoins. Vous ne pouvez pas habiter dans le château du Seigneur et dans la chaumière en même temps. C'est juste pas possible. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le texte ici. Ruth est disposée à suivre Dieu, bien que cela implique qu'elle renonce à ses propres désirs ou à ses propres intérêts personnels. Mais elle ne renonce pas à ses désirs et à ses intérêts dans le but de gagner la faveur de Dieu ou la faveur de Boaz. Et donc ce deuxième point permet de tempérer, si vous voulez, un peu le premier point. Certes, on peut s'approcher de Dieu avec audace, avec assurance, avec hardiesse, parce qu'on s'appuie sur des promesses qu'il a lui-même faites, mais cette grande audace s'accompagne d'une grande humilité. On ne s'approche pas de Dieu avec l'intention de défendre ses propres intérêts, mais on s'approche de lui avec l'intention de recevoir ce qu'il nous offre. On ne s'approche pas de Dieu en fixant nos propres conditions, mais on s'approche de Dieu en acceptant ses conditions, parce qu'il est entièrement digne de confiance. On ne s'approche pas de Dieu de façon insolente, comme si Dieu nous devait quoi que ce soit. Mais on se couche à ses pieds pour invoquer avec audace, oui, mais avec humilité, la réalisation de ce qu'il a promis. Tout comme Ruth qui s'approche ainsi de Boaz, lorsque nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas une opération séduction, mais une opération supplication. Quand les croyants s'approchent de Dieu, quand les croyants sollicitent Dieu, lorsqu'ils se réfugient auprès de lui, les croyants ne se couchent pas à côté de Dieu, ils se couchent à ses pieds. Ce n'est pas une opération séduction, mais une opération supplication. Dieu agrée celui qui s'approche de lui en renonçant à soi-même. Mais que nous apprend la suite et la fin de cet épisode? Eh bien, la troisième et dernière chose que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, à partir du verset 12. C'est que Dieu est pressé de se montrer favorable envers les croyants. Dieu est pressé de se montrer favorable envers les croyants. Et le thème principal de ces versets, versets 12 à 18, le thème principal, l'idée principale qui nous est communiquée, c'est l'empressement de Boaz. Il a déjà répondu favorablement en principe à Ruth, verset 11, « Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » D'accord ? Mais juste après, il explique qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui a un devoir de rachat qui précède le sien. D'accord ? Il a priorité sur Boaz, cet autre membre de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Ruth ? Il lui dit qu'il va se renseigner, non pas la semaine prochaine, mais dès le matin, dit-il, pour savoir si cet autre homme va exercer son devoir. Il est pressé, Boaz. Et en attendant, qu'est-ce qu'il fait, Boaz? Il va prendre d'abord des précautions pour que personne ne puisse soupçonner qu'il y ait eu quelque chose d'inconvenant entre lui et Ruth. Il dit, tu vas partir avant que le jour se lève pour que personne puisse nous accuser de quoi que ce soit quand même, parce que les apparences sont ce qu'elles sont. Hein. C'était de l'audace au départ, hein. C'est audacieux. Et puis au moment de se séparer d'elle, de Ruth, il lui donne, pour elle et pour sa belle-mère Noémie, il lui donne un gage de sa faveur, une espèce de caution qui va garantir son intention d'exercer son devoir de rachat, cet accord de principe qu'il avait donné déjà. Il lui donne 6 mesures d'orge, nous dit le texte, c'est-à-dire une grande quantité d'orge, que Noémie d'ailleurs, quand elle voit cette orge que Ruth ramène à la maison, eh ben, elle l'interprète sans difficulté, hein, verset 18, elle voit l'orge, elle dit, eh ben, tu sais, c'est bon, hein, c'est bon, l'affaire est dans la poche, hein. Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Tu vois, ça, ce qu'il t'a donné, c'est le gage de sa détermination. Il va s'occuper de ça, et rapidement. Et quand on arrive à ce stade de l'histoire, dans le, déroulement du livre hein, de Ruth, on a déjà pu constater, n'est-ce pas, que Boaz incarnait dans l'histoire de Noémie et de Ruth, il incarnait en quelque sorte la faveur et la bienveillance de Dieu lui-même, de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il s'est montré accueillant et généreux, et il s'est montré accueillant et généreux au nom de l'Éternel. Il est celui maintenant qui compte en tout cas exercer ce devoir de rachat. Il est l'instrument, si vous voulez, de la rédemption de Dieu. Il va exercer ce devoir de rachat au nom de l'Éternel. Et donc le lecteur est habitué à ce stade de l'histoire à voir en Boaz le reflet du caractère de Dieu. Et l'audace de Noémie et l'humilité de Ruth en réponse aux promesses de Dieu rencontrent ici l'empressement de Boaz. Et on est naturellement conduit à voir dans cet empressement de Boaz à répondre à la sollicitation de Noémie et de Ruth, l'empressement de Dieu lui-même à répondre à la sollicitation des croyants. D'accord ? Parce que Boaz, il reflète, il incarne, si vous voulez, dans cette histoire, le caractère du Dieu d'Israël. Et donc l'auteur nous fait comprendre ici, je pense, hein, en effet, que Dieu est pressé, lui aussi, de se montrer favorable envers les croyants. Si nous nous approchons de lui par la foi, il est assurément disposé à nous recevoir et à nous secourir. Imaginez que vous soyez amoureux de quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas difficile à imaginer. Imaginez que vous soyez amoureux de quelqu'un et qu'un jour, vous reconnaissez au loin la voix de cette personne qui crie « À l'aide !» N'allez-vous pas vous précipiter pour venir à son secours, franchement ? Normal. Imaginez que vous soyez parent et que vous reconnaissiez la voix d'un de vos enfants. « À l'aide ! Papa, à l'aide ! Maman, à l'aide !» Est-ce que vous n'allez pas courir en direction de cette voie, courir auprès de votre enfant pour le délivrer? Franchement, bien sûr. Hein. Et Dieu aussi se montre assurément disposé à nous secourir. Il se révèle dans sa parole comme étant le rédempteur de son peuple. Le rédempteur de son peuple. Il prévoit dans sa loi les moyens de cette rédemption. Il les met en œuvre. Il les a mis en œuvre d'une façon limitée, ses moyens pour racheter Noémie et Ruth. Et il les a mis en œuvre, ses moyens, de façon suprême, pour racheter de façon suprême tous les croyants de toute l'histoire. Et le moyen de cette rédemption suprême, c'est la venue de son Fils Jésus dans le monde, pour prendre sur lui les conséquences de nos fautes, pour payer notre dette à notre place, afin de nous en délivrer et pour nous racheter. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une rédemption suprême ? Parce que par ce moyen-là, Dieu nous rachète du mal et de la mort de façon définitive. Jésus est aussi ressuscité le troisième jour, en vainqueur sur le mal et sur la mort. Jésus est maintenant, tenez-vous bien, Jésus est maintenant même le représentant suprême des croyants auprès de Dieu. Et donc la faveur que Dieu nous porte et qui explique son empressement à secourir les croyants, la faveur que Dieu nous porte, c'est celle qu'il porte à son propre Fils qui est constamment devant sa face. Quand nous lui crions « À l'aide Seigneur », si notre confiance est en Jésus, c'est la voix de Jésus que Dieu entend. Vous pensez qu'il ne va pas s'empresser de le secourir, de nous secourir ? En fait, Dieu est tellement pressé de se montrer favorable envers les croyants. Il est tellement disposé à nous secourir, tellement disposé à nous racheter du mal et de la mort conformément à ses promesses, de toute façon. Il est tellement disposé à le faire que lui aussi nous a versé une sorte d'acompte pour nous attester cette intention. Il a déversé en nous son propre Saint-Esprit. Il nous a remplis de son Saint-Esprit, nous les croyants. Il nous a scellés de son Esprit, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul ajoute, concernant l'Esprit Saint qui nous a scellés, il dit « Cet Esprit constitue le gage de notre héritage. » L'acompte, vous voyez, qui nous a été versé, qui nous a été donné, qui nous scelle pour le salut. Il constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et c'est pour cela que les croyants peuvent être remplis d'une grande assurance, une grande assurance dans leur relation à Dieu. Pas seulement une grande audace en raison des promesses de Dieu, pas seulement d'une grande humilité en raison du renoncement à soi qu'implique le fait de suivre Dieu, mais aussi une grande assurance dans leur relation à Dieu. Donc comment se fait-il que nous ne soyons pas enclins à nous précipiter vers Dieu pour solliciter son secours, matin et soir, jour et nuit? Pourquoi on n'est pas enclin à se précipiter vers Dieu? Tout simplement parce que fondamentalement, nous ne sommes pas sûrs que Dieu, s'il existe, nous y invite. C'est ce que je disais en introduction. Fondamentalement, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez pu voir à travers ce texte que Dieu, qui existe, nous y invite. Ose t'approcher de Dieu, car il est assurément disposé à te secourir. Approche-toi de lui avec audace, sur la base des promesses qu'il t'a notifiées par écrit dans sa sainte parole. Approche-toi de lui avec humilité, car le secours qu'il t'offre gratuitement implique par nécessité un renoncement à soi. Approche-toi de lui avec assurance, sachant que si tu es attaché à Jésus, eh bien il est déterminé à te sauver. Et rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Si tu es en proie au doute, à la peur, au chagrin, approche-toi de Dieu, approche-toi de lui. Si tu culpabilises, si tu désespères, approche-toi de lui. Ose le faire. Dans tes luttes, dans tes épreuves, dans la tentation, approche-toi de lui. Il est assurément disposé à te secourir. Dans ton péché, dans ta condition déchue et mortelle, approche-toi de Dieu. Ose le faire. Couche-toi à ses pieds, audacieusement, mais humblement, parce qu'il t'a promis de te prendre sous son aile si tu lui fais confiance. Sa promesse est fiable. Il est assurément disposé à te secourir. Ose t'approcher de lui. Si tu fais confiance à Dieu, audacieusement certes, mais humblement, alors c'est Jésus qui te représente auprès du Père. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce Jésus qui te représente solennellement, jour et nuit, auprès du Père, eh bien ce Jésus-là, auquel tu es attaché par la foi, eh bien il n'est pas incapable de compatir à tes faiblesses, mais il a été tenté comme toi à tous égards, sans commettre de péché. Approche-toi donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen.